déguster sur France Inter.
Alors sur le papier, c'est un peu piégeant comme question parce que le céleri, ben voilà, moi j'insiste quand même. Le premier céleri que j'ai vraiment mangé, c'est celui de la cantine. Et il était pas bon. Enfin, aujourd'hui, je fais du bon céleri rémoulade et je suis réconcilié avec ce légume. Et
surtout, on va en parler dans un instant du céleri rémoulade.
Et surtout, on a tous ces chefs qui se sont réappropriés ces légumes racinaires et on s'en régale plutôt que de manger des tomates au mois de février. On mange de bons céleri. Alors quand on regarde la littérature, enfin, c'était dans les livres jadis. Aujourd'hui, c'est sur Google. On lit beaucoup d'idioties du genre le céleri s'accorde avec le fitou, le médoc, le saint-chignan, le sylvaner, le côte de Blaye. Je pense qu'il manque juste un raton laveur. C'est pas très sérieux tout ça. Et surtout, je pense que ça a été pensé et recopié par une époque où vraiment le céleri était vraiment accompagné seulement. Et c'était surtout dans le cru ou dans des points de cuisson. Alors le céleri, on vient d'en parler, ça a du caractère, ça a du goût, c'est corsé. Donc bien évidemment, on va s'orienter vers plutôt des blancs et plutôt des blancs qui ont cette structure, quelque chose d'assez épicé. On pense au sel de céleri justement, bah si vous avez ce goût-là, bah essayez d'imaginer cette piste un peu comme une épice quand vous travaillez à la cuisine. Alors des blancs dominants, j'ai pas dit mâle blanc, hein, j'ai dit blanc dominant, ils sont aujourd'hui complètement en renaissance grâce à la Méditerranée, au pourtour méditerranéen. Alors je veux parler en France des Côtes du Rhône, des Provence, des Corses, du Roussillon, du Languedoc, mais je voudrais associer l'Espagne, pour associer la Grèce, l'Italie, les blancs. Je vous rappelle que avant le phylloxéra, on l'a déjà dit à ce micro, c'est la grande couleur méditerranéenne. Le roux, le grand sud a été rougi après le phylloxéra pour faire du rouge pour les soldats, pour les paysans, pour les travailleurs dans les mines, du vin d'achat à canon. Hein, les grands historiens vous l'expliquent très très bien. Et on retrouve aujourd'hui, du côté des vignerons, une envie d'aller rechercher un petit peu leur patrimoine. Alors on les a appelés un peu cépages oubliés. Moi, je préfère aujourd'hui le thème de cépages patrimoniaux. C'est plus simple parce que c'est une propriété transmise par les ancêtres, tout simplement. Et la vigne, c'est une très très longue histoire de transmission. Alors dans le sud, on trouve bien évidemment historiquement des cépages blancs encore présents, le grenache, le vermentino, la roussanne, le viognier, mais on ouvre aujourd'hui des grimoires, on va, comme certains vignerons, aller voir les compas, vous savez, c'est l'ancêtre du cadastre avant Napoléon, et on regarde les noms marqués. Et là, on trouve des noms incroyables, parce qu'on trouve la Régnan, le Yade Blanc, la Grosse Clairette et le Picardan.
Des cépages qu'on avait totalement oubliés, ou presque.
Exactement. Alors maintenant, on va se mettre le nez dans votre... Oh là là. Vous allez mettre le nez dans votre verre.
Moi, j'ai pris de l'avance, hein. Je peux vous dire que... C'est quelque chose.
Alors moi j'ai cherché d'abord un vin qui allait bien avec le céleri, qui avait du poids, mais je voulais trouver quelque chose qui avait une belle histoire. Alors là on est, alors qu'en pensez-vous déjà? Goûtez, dites-moi.
Moi je suis vraiment très fan, il y a un nez très expressif.
C'est très expressif, on a un peu des arômes, quand on sait que c'est un vin du sud, on imagine c'est un peu plus au nord quand même, un peu la poire, un peu les notes un petit peu de coin, et puis après c'est assez sec, c'est presque un petit peu neutre. Et c'est, on revient sur l'umami. On revient sur ce sentiment d'avoir de la texture plus qu'un enrobage aromatique. Et c'était un peu ça, les blancs du sud, hein, parce qu'ils n'étaient pas spécifiquement faits que pour faire des blancs. On les mélangeait aussi un peu avec les rouges. Et le Picardin que vous avez dans votre verre, c'est un des fameux 13 cépages de Châteauneuf-du-Pape, ce conservatoire historique où on retrouve à peu près toutes les grandes familles de cépages méditerranéens. Et il a quasiment disparu. Mais quand je dis disparu, c'est que vraiment, le vigneron qui nous présente cette cuvée, il m'a dit, j'ai doublé la production mondiale de Picardin. Il en a planté 0,5 hectare. Donc, vous voyez qu'on est... Donc aujourd'hui, ce Picardin, bon, beaucoup de gens s'y intéressent. Hein, des vignerons, on commence à en planter en petite dose. Mais voilà, aujourd'hui, il doit y avoir 3 ou 4 hectares de plantés. Peut-être, au moment où je parle, il y a peut-être un demi-hectare en train d'être planté. Mais on est vraiment dans cette mesure-là. Mais c'est pas pour faire du small is beautiful, c'est vraiment pour montrer comment les vignerons se rapproprient quelque chose. Le Picardin, donc, il est fait aussi, c'est ça qui est très intéressant, ce vignoble, il est à côté de Montpellier, à Lunel, historiquement un vignoble de muscat, des muscats qui aujourd'hui ne sont pas mûrs à moins de 14,5, 15, 15 degrés et demi, c'est ça le gros problème qu'on a avec l'évolution du climat. Donc, ce sont des jeunes vignerons qui ont arraché une partie des muscats de la propriété familiale et ont arraché les parties les plus sudistes là où vraiment ça, et ils ont été chercher des cépages, ils l'ont planté là, et ce Picardin, il fait 12 degrés et demi récolté, voilà. voilà, en pleine maturité, ça garde une assez belle acidité.
Ah ouais.
Et c'est ça qui est vraiment, vraiment très intéressant. Alors, je dis deux mots sur le domaine, ça s'appelle Ampelus. Mm-hmm. Ce sont deux jeunes, alors lui, il est ingénieur agronome, il a commencé il était dans l'horticulture, il est à Angers, et puis le grand-père a cédé son domaine, qui portait à la coopérative, lui dit, est-ce que tu veux relever le défi? Alors, il se voyait pas du tout travailler comme ça. Et puis, il s'est dit, allez, j'y vais. Et avec ça, alors, il s'appelle Thibaut Vermillard. Sa compagne s'appelle Genia Vaslijeva. J'espère que j'ai pas trompé. C'est lituanien. Pardon si j'ai écorché son nom. Depuis 2012, ils ont reconstruit intégralement leur vignoble et ils vous proposent des vins comme ça sous cette étiquette. Alors ça coûte un petit peu cher, ça coûte 20 euros chez les cavistes. Mmh. Donc ça va, c'est très très rare. Et puis on fait vraiment une très très belle expérience. D'autres cépages comme ça sont mis en avant. Je dis simplement, je vous parle juste d'un rendez-vous qui a lieu le 2 et 3 mai dans le centre historique de Montpellier. Mmh. Il y a un symposium qui est professionnel, mais le mardi après-midi c'est ouvert au public. Vous allez retrouver tous les producteurs qui sont en train de mettre en avant ces cépages exceptionnels. Ce vin, je l'ai acheté à Paris dans une cave qui s'appelle Le Vin qui parle. Il y a trois caves. Et sur le site de France Inter de l'émission On va déguster, j'ai cité tous les cavistes où on trouve ce sympathique Picardin du domaine Ampelus.
Vous dites Picardon, hein ?
Picardin.
C'est
Picardin. P-I-C-A-R-D-A-N.
Et ça se prononce Picardin.
Voilà.
Très bien. Mmh. Eh bien, écoutez, je me le tiens pour dit, en tout cas. C'est une très belle découverte dans nos verres. Un grand merci, Antoine Gerbel.